À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. Ce soir, scène intérieure, l'écriture de soi.
Marie-Pierre Pruvot, bonjour.
Bonjour, Alexandre Breton.
Alors, c'est avec une joie un peu mêlée de tristesse que je vous dis bonjour aujourd'hui, parce que c'est notre dernière émission, c'est la cinquième et dernière. Nous avons quitté Proust et peut-être quelque chose comme une décision qu'il a pu introduire chez vous, en tout cas qui va peut-être préluder votre carrière d'enseignante pendant plus de 25 ans. Salué, reconnu, vous avez eu les palmes de l'éducation nationale. Bon, je voulais... Il y avait cette phrase que je trouvais très belle, que reprend Sébastien Lifshitz dans le beau documentaire qu'il vous a consacré en 2018, Bambi, où il cite Nietzsche, « Deviens ce que tu es ». Et j'ai l'impression que votre vie ne cesse d'être l'application de cette devise, disons, de Nietzsche, « Deviens ce que tu es », puisque au début des années 2000, à la suite de cette grande carrière d'enseignante, qui elle-même vient après une longue carrière, une belle et longue carrière dans les cabarets, vous allez vous consacrer à l'écriture. Alors c'est encore autre chose, on n'est plus sur la même scène, on n'est plus sur la scène, ce n'est plus l'estrade, mais c'est une autre scène, c'est la scène de l'introspection et du rapport à soi, puisque c'est une écriture très particulière à laquelle vous allez vous consacrer, c'est ce qu'on appelle, par commodité, par un oxymore même, l'écriture de soi. Mm-hmm. Alors je voulais que l'on reprenne là-dessus justement, de cette décision d'écrire.
J'ai pas pris la décision d'écrire en 2000, j'ai commencé à chercher à écrire dès mon arrivée à Cherbourg, parce que j'attendais d'avoir mon concours pour pouvoir me permettre d'écrire. Je m'interdisais d'écrire, je savais que c'était difficile, mais alors ça m'a paru tout à fait impossible. En fait, je me rendais compte, après plusieurs essais, que je voulais écrire, mais que je n'avais rien à dire. Alors ça me posait problème. Alors j'ai pensé que naturellement, il fallait que je parle de mon expérience, je voulais inventer des personnages. Je me disais que ces cabarets de Madame Arthur et du Carrousel étaient extrêmement connus, mais ils étaient connus de ce qui se passait en scène devant le public. Mais que ce qui se passait dans les coulisses et notre vie si banale et si extraordinaire en même temps aux yeux des gens pouvait intéresser, je pouvais essayer de la raconter. Alors, je me suis mise à essayer de raconter ça pour finir, après bien des essais, des années peut-être, j'ai décidé que je raconterais ma propre vie et qu'éventuellement, je raconterais des séquences qui se sont passées dans les loges, qui se sont passées sur scène, etc. Mais tout cela, par moi, je commencerai à raconter ma vie en Algérie, j'ai commencé comme ça, voilà. Et puis j'ai poursuivi autant que faire se pouvait.
En quoi ça paraissait plus simple, si c'est le terme adapté, de faire le récit de votre vie, sachant que du coup ça devient du récit, que d'écrire un roman totalement inventé, disons, où il n'est pas question de puiser dans la matière de votre existence, de votre vie, mais de tout inventer de toute pièce.
Parce que je manque d'imagination, et parce que je me suis trouvée beaucoup plus intéressante que les personnages que j'inventais, et surtout parce que j'inventais aussi mon propre personnage, et même les personnages dont je parlais. Parce que il n'y a pas une seule personne, y compris moi, qui ait vécu exactement les choses qu'on raconte. La réalité, on ne peut pas la rendre, on en donne une idée, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas rendre la réalité avec certitude. Quand je vois histoire vécue, ça m'amuse, parce que bon, on n'a pas vécu cette histoire-là de toute façon. On a beau raconter toutes les étapes de sa vie, y mettre toute la sincérité possible, c'est faux. Et surtout, il ne faut pas s'imaginer que les gens perçoivent ce qu'on écrit dans l'esprit où on l'écrit. Donc je sais tout ça. Donc pour finir, je ne me suis pas fait trop de soucis de ce côté-là et j'ai arrangé les choses comme j'ai pu. Il est clair que surtout dans ce que je raconte de l'Algérie, il y a des scènes qui ne se sont pas passées en Algérie ou en tout cas qui ne se sont pas passées à Borges-Menayel et que je place à Borges-Menayel. Et par contre... Je dis par contre, mais j'insiste même. Par contre, des scènes que je n'ai pas racontées de Borges-Ménayel, que j'ai pu essayer de les reconstituer différemment ailleurs. Parce que j'ai très peur. Quand on écrit sur soi, les gens risquent de se reconnaître. Et déjà, on m'a fait des fois quelques réflexions en disant que j'étais compromettante et des choses comme ça. Non, donc j'ai voulu surtout éviter ça, justement.
Vous aviez, sinon des modèles, des modèles ou des phares, enfin des sources d'inspiration. Est-ce que dans ce cheminement par l'écrit, il y avait des auteurs qui vous soutenaient ?
Oui, alors la grande découverte que j'avais faite un peu plus tard, même beaucoup plus tard, c'était Saint-Simon. Saint-Simon est fascinant. Et je me souviens que les premiers temps que j'étais à Octeville, où j'habitais, je riais tellement en lisant Saint-Simon que j'arrivais pas à m'endormir. J'étais obligé de m'obliger d'arrêter la lecture et quelquefois même de prendre un petit somnifère pour m'endormir. Tellement ça m'amusait, tellement j'étais intéressé par... C'était une découverte extraordinaire. Mais justement, c'est très dangereux parce que les auteurs qui vous plaisent infiniment risquent de vous imprégner tellement que vous devenez un succès d'année et un peu ridicule de ces gens-là. Et il faut que je sois en garde contre moi-même, parce que je me suis laissé entraîner à être si imprégné d'eux que déjà ça m'était arrivé avec Coccinelle. Je m'étais tellement imprégné des habitudes de Coccinelle que j'avais dû lutter pour me reprendre en main. C'est un petit peu la même chose quand j'écris, parce que je n'écris pas depuis 20 ans, j'écris donc depuis 1974, ça fait pas mal d'années.
Comment ça s'est passé justement la présentation du premier livre ?
Je commençais mon premier livre donc dans l'adolescence. J'avais 16 ans, je me place en 1958 à Alger, sortant du lycée Bugeaud, qui est un lycée garçon, et je suis censé faire une rencontre avec Jacques, en question dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Et voilà où je situe mon livre. Et il se termine quand je quitte Alger et que le dernier chapitre se finit à Paris, chez Madame Arthur. Alors j'envoie mon livre dans les éditions, comme ça. Je le fais taper à la machine à l'époque, et j'envoie mes livres dans des éditions. Alors on a les réponses habituelles, peut-être très bien, mais hélas, bon. Et un beau jour, je reçois une lettre de chez Grasset, écrite à la main. Et on me dit... Votre livre m'a intéressé, mais vous devez savoir que... c'est Jacques Brenner qui m'écrit ça, Jacques Brenner. Et vous devez savoir que quand on intéresse comme ça, la personne qui lit aimerait connaître l'auteur. Est-ce que vous pourriez venir rue des Saints-Pères me voir ? J'ai cru rêver de bonheur. Et bon, j'allais rue des Saints-Pères. Et rue des Saints-Pères, il me fait des compliments sur le livre. Il me dit, mais j'ai très bien compris. Même quand j'ai refermé le livre, je revoyais ce petit bonhomme, dit-il, dans les rues d'Alger, marchant dans les rues d'Alger. J'étais très perplexe, parce que dans mon livre, il n'était pas question de petit bonhomme. Il n'y a pas d'accord au féminin, et donc pas au masculin. Je m'arrange pour soit employer des adjectifs... qui sont identiques au masculin et au féminin, comme aimable, par exemple.
Voilà, mix, ouais. Disons.
Oui, bref. Et donc, je n'ai pas fait d'accord, et je me suis demandé comment il avait compris. Bon. Oh, il dit, vous savez, ne vous faites pas d'illusions, je vais proposer le livre, c'est tout. Et donc, il le propose au directeur, j'ai oublié, Monsieur Bourrin, il n'y a pas un monsieur qui s'appelle Monsieur Bourrin. Oui, c'est ça, je crois. Il me reçoit, puis après il m'écrit, oh, c'est encore... Ce qui intéressera le public, c'est pas du tout ce que vous dites, c'est que vous racontiez votre vie, comment cette idée bizarre vous est venue, que vous étiez... Mais c'était exactement le contraire que je voulais faire, bien entendu. Alors j'ai dit que non, que je ne ferais pas. J'ai dit à Jacques Brenner que je ne le ferais pas. Il m'a dit, mais je vais peut-être, si vous permettez, je vais me présenter à M. Vrigny. Oui, présenter à M. Vrigny, mais M. Vrigny, ça l'a dégoûté. Il n'a
qui
pas...
était M. Vrigny ?
C'était un directeur d'édition, lui aussi, comme M. Bourrin, bref. Alors ça me désolait, mais à moitié, parce qu'entre-temps, j'avais reçu une autre proposition, une autre lettre. C'était de Noël. Ouais, le nom m'échappe, ça c'est mon âge qui veut ça. Mais il me reçoit, et alors lui, naturellement, avait lu le livre, et il n'avait pas perçu si c'était... Il était intrigué, il voulait savoir, etc. Et alors je m'arrange pour lui faire comprendre, sans dire les mots, Je ne veux pas dire, j'étais un garçon qui voulait être une femme. Des mots pareils ne sortaient pas de ma bouche. Et donc, je m'arrange pour lui faire comprendre. Ah, il dit, c'est très bien, je vais vous parler. Et il me cite, la grande éditrice extrêmement connue, que Bernard Pivot appelait la maman des intellos, etc. J'en revenais pas d'avoir un personnage si connu. J'oubliais le nom encore. Mais j'en revenais pas, j'étais extrêmement flattée. Elle est arrivée. Alors, elle ne m'a posé aucune question, elle avait été mise au courant par le lecteur, et alors elle a commencé à me dire, vous m'enlèverez, il y a trop d'adverbes, vous enlèverez les adverbes et vous enlèverez la cinquième partie, parce qu'elle avait demandé au lecteur, mais pourquoi cette cinquième partie ridicule dans un cabaret parisien? Et l'autre lui répond, parce que c'est sa vie. Ah non, il faut supprimer ça. Et alors, elle me dit d'écrire, je réécris, mais entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me reconvoque une autre fois, je remonte, elle me reparle, elle parlait, elle ne me pose aucune question. Elle me parlait, et c'était chez Gallimard. Elle avait un bureau, une sorte de soupente chez Gallimard, où elle était là, et j'ai tout oublié de ce qu'elle a dit. Bref, ça ne s'est pas fait non plus, donc j'ai mis mon livre dans un tiroir. Et puis, je me suis dit, bon, on verra. J'ai cessé d'écrire pendant un certain temps parce que j'ai voulu préparer l'agrégation. Et tout ça par correspondance, encore une fois. Mais c'est pas possible de préparer l'agrégation et de faire des cours à la fois. Surtout qu'il n'y avait pas d'agrégation interne à l'époque. Donc, je laissais tomber. Mais enfin, j'ai pas préparé l'agrégation. Je n'ai préparé qu'en littérature. Alors, c'était très intéressant, les professeurs, même... De toute façon, je me suis offert des cours, une année, je me suis offert des cours au Collège Sévigné. Et au Collège Sévigné, en particulier, j'étais intéressé par les cours de littérature comparée, parce que la littérature comparée me posait problème. Et je me dis que quand on lit quelque chose de traduit, ça peut poser problème. Enfin, bon, j'ai pris des cours avec Monique Neymer, littérature comparée, c'était tout simplement formidable.
Vous aviez le sentiment que ces livres, est-ce que vous pensiez ça, que ces livres donnaient aussi une forme à votre cheminement, à votre trajectoire? C'était l'intention? Vous pensiez ce que vous faisiez en écrivant sur ou à partir de votre vie?
Je voulais écrire, j'aurais aimé tirer de mon écriture une sorte de respect peut-être, dont j'avais eu soif. Voilà.
Respect, c'est-à-dire de reconnaissance?
Oui, ben oui, ce serait venu par une reconnaissance.
Vous l'aviez eu par l'enseignement?
Oui, mais enfin, j'enseignais encore, je crois. Quand j'ai connu Monique Neymer, je ne sais pas si j'enseignais encore. Enfin, Monique Neymer avait lu mon livre, parce que mon livre avait fini par être édité ailleurs. Elle avait lu mon livre et elle l'avait trouvé intéressant. Alors, elle a été extrêmement... D'abord, il a fallu qu'on se tutoie. Elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un qui sache écrire comme toi et qui est en expérience. Oh, vous savez, on ne résiste pas à des compliments pareils. Alors, j'étais tout oui, j'étais d'accord sur tout. Et elle me dit, alors, tu n'écris pas un roman, tu écris ta vie. Tu vois, ça, on va le rayer. Alors, je dis, non, ça va pas, je préfère écrire un livre. Elle me dit, j'osais pas te le demander. Donc, je suis reparti dans l'écriture de mon autobiographie, en essayant que ce soit une véritable autobiographie. Alors, elle venait tous les mois à Presles, j'habitais à Presles à cette époque-là, elle venait tous les mois à Presles, et un beau jour, elle était relativement contente de ce que j'écrivais, elle me donnait des conseils, je les écoutais, j'étais tout ouïe, parce que naturellement, elle m'impressionnait beaucoup. J'avais encore l'image que j'avais d'elle quand elle était professeure de littérature comparée. Et vraiment, j'ai eu beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Et elle, donc, j'écoutais, j'essayais de suivre ses conseils, mais suivre des conseils, c'est bien beau, mais je veux écrire ce que j'ai à écrire et pas autre chose, même si elle me conseille. Un beau jour, j'ai écrit une scène, une nuit que j'ai passée à 16 ans, âgé, on m'avait fait dormir avec mon cousin. Et mon cousin, je ne sais pas ce qu'il a vu en moi, bref, il a fallu que je me défende toute la nuit, et je ne donnais pas trop de détails. Alors elle me dit, non, on comprend rien à ce que tu dis, on veut des détails. Alors dis-nous, mais moi des détails, il était absolument exclu que j'en donne. Alors, je lui ai dit, écoute, on va continuer à se voir si tu veux bien, mais tu n'auras mon manuscrit que quand il sera écrit. Elle m'a dit, d'accord. Elle était drôle, elle était vraiment tout à fait exceptionnelle. Je lui ai donné mon manuscrit, et je lui ai dit, ça m'a beaucoup marqué, je lui ai dit, dis-moi ce que tu en penses, ne m'épargne pas. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu sais bien que je t'épargnerai. Et elle m'a épargné, en effet, pas de la manière dont j'attendais, mais je n'ai plus entendu parler d'elle. Jusqu'à sa mort, je n'ai plus entendu parler d'elle.
Et quel effet ont eu en retour ces livres que vous écriviez sur votre vie? Quel effet ont-ils eu sur vous et votre perception de votre vie, justement? Est-ce qu'ils ont eu un effet?
D'abord, ils ont eu un effet, c'est-à-dire que je me suis aperçu que mes livres ne se vendaient pas, que mes livres ne plaisaient pas, ou vraiment très peu, parce que des compliments j'en ai eu, mais les gens font des compliments comme ça. Mais mon livre ne se vendait pas, donc ça ne m'a pas donné de moi-même, ça ne m'a pas beaucoup valorisé, disons. Voilà. Ça ne m'a pas valorisé du tout.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Comment ?
Ça n'a pas toujours été le cas.
Ah ben ça, je vais vous donner un exemple. Quand Sébastien Lifshitz a fait ce premier documentaire sur moi, j'ai été invité dans une émission littéraire. Et à la télévision, nous étions quatre, et il y avait un livre de chaque personne. Et le journaliste demanda au premier, au deuxième, au troisième. La troisième, c'était moi. Et il avait un livre de moi à la main, et il m'a parlé, mais il ne m'a pas parlé du tout du livre. Il m'a parlé du documentaire de Sébastien, et puis il m'a parlé des questions sur ma vie, etc. Ça n'avait rien de littéraire, rien de... Il a parlé de ma vie, du documentaire, dans la mesure où c'est de l'anecdote. Bon, alors, vous voyez, c'est pas très valorisant. Vous en conviendrez.
Oui.
Donc vous me dites si ça a eu une influence sur moi, ça ne m'a pas découragé d'écrire, puisque je ne peux pas vivre sans écrire. Mais je sais à peu près quoi penser. Là, j'ai des livres qui sont écrits, j'ai quasiment 5, 6 livres peut-être avec les nouvelles, que j'ai écrit un livre de nouvelles aussi. J'ai quasiment 5 livres qui sont écrits. Et qui dorment qui dormiront peut-être toujours, sans doute, parce que...
Dont le matériau, le fond dans lequel vous puisez, c'est toujours votre vie?
Oui, c'est toujours ma vie, oui. C'est toujours ma vie. Oui, ma vie. Et ma vie est mon combat pour écrire, voilà. Ma vie est mon combat pour écrire. Et j'aurais aimé, parce que... Je sens la langue française bafouée partout. Je ne parle pas de sa pureté. Je parle de son emploi pur et simple. J'allais dire, c'est un grand remplacement. Un grand remplacement de la langue française par la langue anglaise. Voilà de quoi il s'agit exactement. Ce grand remplacement, il est incontestable. Et incontestable partout. Et j'en suis tout à fait navré, j'en suis malade. Et voilà ce que j'aurais aimé faire, c'est obtenir de la société une place de laquelle j'aurais pu parler, j'aurais pu protester. Voilà.
Ah oui, prendre la défense de la langue.
Oui, de l'emploi de la langue. Hein. Je ne suis pas en train de dire de savoir si on dit par contre ou si on ne le dit pas. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est parler français. Et si vous faites une Europe de langue anglaise et de monnaie allemande, la France n'existe plus. C'est tout simplement ça. Et la France n'existe plus. La langue française, disons, n'existe plus. La France, on donne tant de formes à ce mot France, je ne sais pas. Moi, je parle de la langue française qui évolue, forcément. Tout évolue. Mais la langue française, la francophonie qu'on laisse un peu tomber, les étudiants, les études qui ne se font plus en français mais en anglais, tout ça, c'est ravageur pour la langue, c'est ravageur pour les pays francophones qui se trouvent donc en difficulté. Ça me mine complètement. C'est bien que je mourrai malheureuse à cause de ça.
Bon, c'est un processus qui est ancien, le processus de cette, disons, de cette disqualification de la langue, de cette, oui, de cet appauvrissement de la langue.
C'est pas. Ah, mais c'est encore autre chose d'appauvrissement de la langue. Je ne parlais pas de ça. Si déjà l'emploi de la langue était courant en Europe, dans les études, toutes les études qui sont faites, un jour M. Bayrou a dit, mais c'est normal qu'on ait fait la loi pour que les études puissent se faire en anglais parce qu'il y avait une loi qui l'interdisait. C'est normal, après tout, maintenant, tout se fait en anglais. Mais non, c'est pas normal. Il faut... Je vois pas pourquoi on peut pas faire les études en français. Si bien que nous avons nos élites qui pensent en anglais. On voit le président de la République a fait ses études et il pense en anglais. À l'ENA, on pense en anglais. Et ça m'est insupportable.
C'est quelque chose qui ressort de vos livres. Cette attention,
ah oui.
En tout cas...
Ah bah alors si vous lisiez ceux qui ne sont pas édités, hein, qu'est-ce que vous diriez? Oui, oh oui, elle est constante, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que j'y reviens constamment, et alors, vous disiez quel effet sur ma vie, eh bien, une tristesse, et un peu un mépris de moi-même de n'avoir rien pu faire pour la chose au monde à laquelle je tiens le plus, c'est-à-dire la langue française. Qui est ma mère en quelque sorte. Comme j'ai raté avec ma propre mère, je rate avec mon autre mère intellectuelle, qui est la langue française.
Quelle serait la réussite, Marie-Pierre Prévost?
Eh bien, qu'il y a un mouvement, qu'il y a un parti politique qui dise on va nous faire à Villers-Cotterêts, on nous refait le château pour la langue anglaise. Mais est-ce qu'on veut la langue française? Le lapsus m'amuse assez, non, m'attriste. Et on refait le château pour y faire un centre de langue française. Mais bon, c'est très bien. Mais est-ce que c'est pas un caveau? Est-ce que c'est pas un caveau qu'on fait pour la langue française?
Je voulais que l'on revienne sur la question de l'écriture de soi, Marie-Pierre. Vous êtes engagée dans un travail d'écriture dont vous êtes et le sujet et l'objet. Mm-hmm. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore dans une forme de mise en scène, de mise en récit, pour dire les choses simplement, de mise en récit de soi. Bon. Mais la question que je me posais en vous rencontrant, c'est est-ce qu'il est légitime de supposer que ce soi préexiste à son écriture? Je ne suis pas en train de dire que vous n'existiez pas, bien sûr. Je me demande simplement, puisque vous êtes de ce côté-là, du côté de l'écriture de soi, si on peut véritablement considérer que vous écrivez sur vous-même. Non. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de dire... autrement que en écrivant, vous constituez un soi.
Oh, ça, c'est certain. Il est certain que quand on écrit, enfin, je parle pour moi, il est certain qu'en écrivant, je me recrée. Et j'imagine difficilement qu'il puisse en être autrement. On se recrée entièrement et on ajoute à soi tous les jours, mais c'est un petit peu comme quand on vit. J'imagine que les personnes qui ont un enfant, puis deux enfants, trois enfants, c'est plus du tout la même chose. C'est pas, il me semble que c'est comme ça. Et quand on écrit un livre, si je consacre par exemple à la maladie de ma mère qui a été épouvantable, qui s'est passée à Octeville, et enfin, c'est dramatique, mais enfin, j'intercale aussi de moments qui ont été des moments charmants, des moments qui ont été comiques, avec la voisine qui venait, qui voulait bien faire le ménage chez moi, s'occuper un peu de ma mère en mon absence. Tout ça, elle me faisait beaucoup rire, volontairement et involontairement, et il y avait des moments très agréables, et puis des moments où maman allait très très mal, et tout ça, j'ai même eu besoin d'écrire, Dieu sait, pourtant, si je ne voulais pas considérer la littérature comme une thérapeutique, mais malgré tout, je crois qu'elle m'est venue en aide et qu'elle m'a beaucoup sorti des pire situation. Pas sorti, parce que j'ai pas réglé le problème de ma mère. Au contraire, je m'y suis enfoncé. Mais, malgré tout, il restait ça, cette écriture qui m'a fait vivre quand même, qui m'a apporté, qui m'a transformé, qui m'a apporté, même quand j'arrivais pas à écrire, ce qui arrive très souvent, ou que je déchire tout ce qui a été écrit, etc. Même dans ces moments-là, l'écriture m'est indispensable, parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est l'écriture qui m'a faite, oui. et qu'on me voit, Sébastien a beaucoup rajouté à ce qu'il avait lu de moi, il avait lu mon autobiographie, il a rajouté de la volonté là-dedans. Moi, il me semble qu'au contraire, les choses se sont déroulées au jour le jour, et à l'effort, en quelque sorte, si bien que tout ça s'est construit tout seul, et puis se déconstruit maintenant un petit peu.
Non, c'est vrai qu'il en ressort une manière de ne pas transiger sur votre désir. De la lecture de votre autobiographie, voilà ce qu'il ressort. Vous n'avez pas transigé sur un désir.
J'ai plutôt l'impression que j'ai cédé à des obligations. C'est différent. Je ne me crois pas assez libre de moi-même pour accepter la phrase que vous avez donnée. J'ai vraiment l'impression qu'on ne s'appartient pas tout à fait et qu'on est poussé par, une force comme ça.
Et du coup, quelle place a l'écriture dans cette idée-là ?
Eh bien, l'écriture qui me montre, qui essaye de me montrer ma part de volonté, ma part de paresse. Des fois, j'ai l'impression que oui, j'ai fait des efforts, que les efforts, après tout, on a l'impression qu'on est maître de soi quand on fait des efforts. Et puis je me dis, mais pas du tout, tu as fait des efforts parce que tu étais forcé de faire ces efforts. Je ne sais plus trop quoi penser de tout cela. Alors j'essaye d'écrire, et puis je change d'avis au fur et à mesure que j'écris. Et ce que j'ai dit il y a 30 ans ou 40 ans, je ne le dirai peut-être pas aujourd'hui. Et puis il y a des choses que je répéterai volontiers. Je ne sais plus trop où j'en suis. Je ne veux pas trop y penser parce que ça m'affole.
Je ne sais plus quel écrivain disait qu'on se confie à l'écriture comme on se confie à une mère.
Oui, peut-être. À ma mère, je ne me suis pas entièrement confiée. Mais à l'écriture, c'est autre chose. Mais on se confie, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. On se maquille aussi. On ne fait pas que se confier.
Je m'arrêterai volontiers ici, Marie-Pierre.
Eh bien, on s'arrête ici.
Marie-Pierre Pruvot, merci infiniment pour cette série d'entretiens.
Merci beaucoup Alexandre Breton, j'étais ravi de vous rencontrer.
Fin de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Marie-Pierre Pruvot alias Bambi. Voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Clément Vuillet, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.